va donc nettoyer au propre comme au figuré la cité des Capuilles.
Quand je vois des bandes qui trafiquent de la drogue dans les halls d'immeubles, il faut nettoyer.
Mais au fond, je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. On a fait reculer le chômage. Ça n'a pas eu un effet direct sur l'insécurité.
En ce qui concerne le problème de l'emprisonnement des mineurs, l'emprisonnement lui-même s'avère très souvent un mal plutôt qu'un remède. Il est traité comme délinquant. Et par là même, il se sent délinquant. Il devient délinquant.
Si tu joues aux policiers, ils joueront aux bandits. Si tu joues au bon Dieu, ils joueront au diable. Si tu joues aux geôliers, ils joueront aux prisonniers. Si tu es toi-même, ils seront bien embêtés.
Bienvenue à Wakadi, l'émission de la France qui se lève tôt et qui se couche tard. Wakadi, on a quelque chose à dire, c'est parti. Nouvelle politique, nouvelle gouvernance aussi, et esprit de rupture oblige, Wakadi se met à l'heure du Sarkoland. Bosser plus pour bosser plus, on veut nous aussi libérer les forces vives de la radio. Alors exceptionnellement, on change de format pour cette émission, on est donc parti pour une heure autour des questions de sécurité, d'insécurité et d'action sociale. Avec un petit détail, c'est que l'émission d'une heure, vous pourrez l'écouter que le vendredi. Cette émission est toujours enregistrée dans les studios de l'association Sans Limite à Villeneuve-les-Maguelones. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur le site de l'émission. On est toujours quatre pour animer ce moment. Jean-Jacques, qui s'occupe aussi de la technique. Salut Jean-Jacques.
Salut, salut.
Ensuite, celui qui s'énerve jamais, l'homme des colères saines, Manu. Salut Manu.
Salut.
Et puis enfin, l'homme qui veut repeupler la France à lui tout seul, Marco. Salut à toi Marco et surtout salut à ton petit Gabriel.
Oui, merci, bonjour tout le monde.
On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les lundis à 17h30, ou un lundi sur deux je pense plutôt, à 17h30 ce lundi-là que sur une demi-heure, et le vendredi à 17h30 pour une heure sur Radio Clapaz 93.5, mais également sur le site internet de l'émission wakadi.free.fr.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Alors bienvenue donc dans cette émission, nous allons tenter aujourd'hui encore un petit pas de côté sur un sujet pas évident et assez terrible puisqu'il s'agit des violences conjugales. En effet, lorsqu'on pense à la violence, on pense plutôt à la rue, aux bagarres, à l'agression. Alors que parmi les violences les plus fréquentes et dont on parle peu, les violences conjugales tiennent une place particulière. Une place particulière parce que ce sont les femmes qui en sont encore une fois les premières victimes. Ainsi, par exemple, tous les trois jours, en France, une femme meurt suite au coup de son compagnon. Et puis finalement, on s'aperçoit que l'apprentissage de la violence se ferait finalement moins devant les films ou les jeux vidéo qu'à la maison. Un homme qui maltraite sa femme apprend la violence à ses enfants, dit le slogan de la dernière campagne d'information. Alors aujourd'hui, on accueille à nouveau quelqu'un qui a quelque chose à dire. Il s'agit d'Estelle Karchen, assistante sociale au Conseil général de l'Hérault, qui travaille sur le secteur de Clermont-l'Hérault, à la mise en place et surtout qui participe à l'animation donc d'un réseau de coordination autour de cette question. Madame Karchen, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Très bien.
Détendu ?
Ouais. Pas trop.
Pas trop. On va donc passer 7 heures en votre compagnie.
Tous les deuxièmes et quatrièmes lundis du mois à 17h30 sur Radio Clapaz 93.5.
Alors Madame Karchen, donc vous êtes donc assistante sociale et vous êtes plus particulièrement intéressée sur ces questions-là. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux et nous expliquer un petit peu de quoi on parle finalement ?
Donc, pour rappeler ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est un phénomène dont on parle peu, puisqu'il se passe dans la sphère privée, et donc il se passe dans la sphère du couple, de la famille. Et donc, en ce sens, on croit qu'on ne peut pas en parler, on ne peut pas le divulguer. C'est un phénomène qui est considéré aujourd'hui comme une priorité de santé publique, qui est un véritable fléau du fait que on sait aujourd'hui qu'il y a une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Et ce que vous avez rappelé tout à l'heure, selon l'Observatoire national de la délinquance, une femme meurt tous les trois jours. C'est des chiffres très très alarmants puisque ça représente un taux de mortalité chez les femmes qui est bien supérieur aux accidents de la route, par exemple. Voilà, donc en France, on comptabilise depuis peu ce phénomène. Il y a la première enquête statistique a eu lieu en 2001. Voilà, l'enquête nationale envers les femmes qui a donc montré l'importance de ce phénomène. Et il n'existe pas réellement aujourd'hui d'éléments statistiques fiables pouvant mesurer...
C'est une estimation ou c'est vraiment chiffré?
Une femme sur trois qui meurt tous les...
Oui,
ça a été chiffré par l'Observatoire national de la délinquance en 2006, en novembre 2006.
Les chiffres au niveau des violences conjugales en général, c'est basé sur des estimations, puisqu'on sait aussi que c'est des violences qui sont cachées.
Voilà, donc c'est une estimation qui n'est pas du tout exhaustive, puisque l'enquête nationale envers les femmes a été réalisée auprès d'un public de 7000 femmes, sur de femmes âgées de 29 ans à 59 ans, et qui a pu montrer justement qu'une femme sur 10 avait vécu dans l'année précédente avait vécu des violences au sein de son couple. Donc c'est une estimation qui se base pour l'instant que sur ces chiffres-là. Il y a un travail qui se fait à la demande du gouvernement sur des chiffres recueillis au niveau des services de police et de gendarmerie. Voilà, mais des chiffres qui se basent uniquement sur des personnes, des femmes qui vont parler, qui vont rencontrer des services de police ou de gendarmerie et qui vont exposer à un moment donné les violences dont elles sont victimes. Mais toutes celles dont on ne parle pas, c'est toutes celles qui défraient pas les chroniques, c'est pas Marie Trintignant, c'est toutes ces femmes qui subissent des violences psychologiques. Alors peut-être qu'il faut revenir un petit peu sur les définitions de qu'est-ce que la violence conjugale. Donc elle a été définie de manière assez intéressante par un professeur à la faculté de médecine qui s'appelle le professeur Henrion, qui a défini la violence comme un processus évolutif qui au cours duquel un partenaire va exercer une domination dans le cas d'une relation privilégiée, sur son partenaire. Donc une domination qui va s'exercer sous forme soit de violence physique, soit de violence psychologique. Donc violence psychologique, c'est tout ce qui est dénigrement, humiliation, tout ce qui va recouvrir les violences sur la destruction de matériel. Voilà, il y a aussi des violences dont on parle peu et dont les femmes sont très en difficulté pour en parler, ce sont aussi les violences sexuelles. Il y a également les violences économiques, lorsqu'on prive une personne de revenus, lorsqu'on l'empêche de se servir d'un compte bancaire. Il y a tout ce qui concerne aussi des privations de liberté qui vont jusqu'à la séquestration.
Est-ce que d'après les statistiques, les études, est-ce qu'il y a des milieux qui seraient plus atteints par ces violences conjugales-là ou pas du tout? Est-ce que c'est des idées reçues? Comment ça?
Ouais. Alors ça fait partie des représentations qu'on peut avoir un petit peu sur le public, tant victime qu'auteur. Ce qui a été vraiment bien déterminé de par ces enquêtes et l'ensemble des études qui se font au niveau européen et mondial, c'est que c'est une violence qui touche toutes les catégories socio-professionnelles. Donc les représentations qu'on se fait des auteurs, notamment l'homme rustre, violent, alcoolique, non, pas du tout. Ça concerne aussi le pharmacien, le médecin, l'avocat. Toutes les couches professionnelles sont touchées. Et c'est justement, ça peut être aussi des personnes qui donnent le change aussi à l'extérieur et qui sont prises dans leur milieu familial, dans leur relation de couple, hein, une relation qui est assez pathologique, des personnes très très violentes à l'intérieur de leur sphère privée et qui donneront le change à l'extérieur. Donc ça ne concerne pas uniquement des milieux défavorisés, ça concerne tout le monde. Et c'est bien ce que ces enquêtes ont révélé et qui révèle l'importance de ce phénomène. Personne n'est à l'abri, autant en tant que victime qu'auteur. Voilà.
Après, peut-être, donc on parlait du milieu, mais en termes d'évolution, est-ce que je pense que ça doit être comme plein de phénomènes où je pense qu'il doit y avoir une révélation plus importante à l'heure actuelle qu'il y a quelques années, qu'il y a 20 ans ou 50 ans. Est-ce qu'on a des éléments de comparaison? Est-ce que ça aurait augmenté?
On n'a pas d'éléments de comparaison puisqu'il n'y a jamais eu d'éléments statistiques. Et je crois que quand on ne veut pas considérer un phénomène, en tout cas, on commence par ne pas le mesurer, on commence par ne pas le chiffrer. À l'heure actuelle, on est en 2007, il n'y a toujours pas d'observatoire mis en place pour ces violences. Voilà, donc ça a toujours existé. Je crois que la violence conjugale tire un petit peu ses origines dans des origines un peu multifactorielles, historiques, sociales, culturelles, sur la place de la femme dans la société, hein, une place où il y a une domination masculine qui s'exerce sur les femmes. Il y a des causes d'ordre psychologique sur le fonctionnement d'un couple, le fonctionnement d'un homme, d'une femme, et il y a un facteur social aussi.
C'est-à-dire que vous, en tant qu'assistante sociale, quand il y a quelqu'un qui vient vous voir parce qu'elle est victime de violences conjugales, à partir du moment où elle ne s'adresse pas au service de police, elle n'existe pas en termes comptables. C'est-à-dire qu'il n'y a que si elle s'adresse, s'il y a un dépôt de plainte au service de police, qu'elle existe, enfin, que cette violence-là est révélée en termes comptables.
Voilà. Uniquement. C'est-à-dire pour l'instant, il n'y a pas de du tout.
Au niveau du service social, voilà. Il n'y a pas de système qui permette de comptabiliser aussi ces violences-là. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Non, exactement. Il y a uniquement les violences sont comptabilisées, uniquement, pas seulement les dépôts de plaintes, mais aussi les mains courantes. Peut-être qu'on viendra là-dessus tout à l'heure sur cette différence-là qui est quand même assez importante. Uniquement ces violences-là sont comptabilisées et les décès suite à des homicides. Voilà.
Je crois que c'est récent d'ailleurs le fait de pouvoir comptabiliser les mains courantes. Ça faisait partie des revendications pendant très longtemps. On se limitait à ne comptabiliser que les plaintes. Et je crois que c'est quelque chose qui a été avancé. Je ne sais pas du tout à quelle période. Mais...
Je crois que la première... Mais
Il faut expliquer la différence.
Ouais, vas-y.
Entre une main courante et... Un dépôt de plainte est une action judiciaire contre quelqu'un. Une main courante est une déclaration d'un fait signalé.
Donc, voilà. Enregistré.
Enregistré. Et la différence.
À un moment donné... Il n'y a pas de peine ou il n'y a pas de poursuite par rapport à la peine.
Disons que le procureur ne poursuit pas. Aujourd'hui, il y a la différence. Enfin, voilà. Ce qui a changé depuis quelques années, notamment depuis l'évolution un petit peu de la législation en matière de violence conjugale, c'est que le procureur, normalement sur des mains courantes, ne se saisit pas et n'engage pas de poursuite à l'égard d'un auteur. Aujourd'hui, avec l'évolution un petit peu des mentalités, le procureur peut décider, au vu d'un procès-verbal ou du compte-rendu d'une main courante, peut décider, au vu des faits, de poursuivre quand même l'auteur.
C'est le cas aujourd'hui ou...
C'est le cas aujourd'hui. C'est très rare. C'est assez rare, puisque, en tout cas sur le département de l'Hérault, sur le tribunal de Montpellier, sur les 640 plaintes qui ont été déposées, là je parle de plaintes, hein, sur les 640 plaintes, seulement 200 plaintes ont pu aboutir sur des poursuites judiciaires. Sur ces 200 plaintes, il y a simplement 50 plaintes qui ont pu aller jusqu'à une comparution immédiate, et seulement 7 ont été prises en compte dans le cas d'évolution de la loi où il y a une possibilité d'éviction du conjoint violent.
Sur 650.
Sur 650.
De 7 à 650.
Voilà.
Mais les raisons d'un tel chiffre aussi minime, pour arriver à 7 de 650 à 7, qu'est-ce qu'il y a des critères? Comment on arrive à ça? On se rétracte? Comment ça se passe?
Alors, je crois qu'on touche là aux limites de l'autorité judiciaire aussi et des moyens qu'ont les tribunaux à poursuivre ce type de plainte. Parce que la justice aujourd'hui, là, le procureur Vermeil qui est sur Montpellier, disait que la justice a besoin de preuves, voilà, et de fournir des preuves sur des violences physiques. Quand il y a des coups, ça se voit. Et encore faut-il qu'il y ait un certificat médical qui soit fait en bonne et due forme, donc qui soit fait uniquement, il est reconnu uniquement quand il se fait à l'unité médico-légale, donc par un médecin légiste, et à savoir que sur le département, il y a un service d'unité médico-légale que sur Montpellier. Voilà. Donc en dehors de l'agglomération de Montpellier, le médecin légiste ne se déplace pas. Donc le certificat médical fait par un médecin généraliste n'a pas de valeur réelle, en tout cas pas la même que celle faite par un médecin légiste. Donc sans preuve, la justice ne saisit pas, ne poursuit pas.
Et voilà. Pour revenir sur les poursuites possibles, mais finalement quasiment jamais faites en cas de...
Il y en a quand même.
Juste au niveau des mains courantes, on était parti sur ça tout à l'heure. A priori, il y en a très très peu, je crois, à partir de mains courantes. Pourquoi, au moment du dépôt de plainte, parce que j'imagine que les femmes victimes de violences, quand elles arrivent au commissariat, elles souhaitent plutôt déposer plainte que faire une main courante. Comment ça bascule ou pourquoi? Alors, comment ça se fait que des fois ça soit une plainte, des fois c'est une main courante? Est-ce que c'est du choix de la victime? Est-ce que c'est une prise en compte par l'officier de police? Comment ça s'explique
Du choix de la victime. C'est-à-dire que c'est une démarche très très difficile pour une femme de venir, déposer sa parole, de venir parler, de dire ce qui se passe. Souvent on s'aperçoit qu'elles vivent ces violences depuis des années. Et de vivre ces violences au quotidien, pas seulement les violences physiques, mais les violences verbales et psychologiques, on assiste à un véritable enfermement, un véritable dénigrement. Et les femmes sont aussi dans une banalisation des faits, c'est-à-dire qu'elles ne se rendent même plus compte de ce qui est violent et de ce qui ne l'est plus. Donc pour pouvoir venir déposer à un moment donné une parole, il faut déjà pouvoir se reconnaître victime. Voilà.
Je crois qu'il y a aussi... Enfin, là, cette parole n'engage que moi, mais je crois qu'il y a aussi le fait que ces femmes-là s'adressent aussi à un public, donc les autorités masculin. Sont quand même très masculines, et qu'à côté de ça, le dépôt de plainte ne demande pas autant, enfin demande beaucoup plus d'efforts de la part de la police notamment, parce que je connais peu la gendarmerie, mais de la police plutôt qu'une main courante. C'est-à-dire que ça demande à être entendu par un OPJ, un officier de police judiciaire, etc. Et j'ai pu, moi, constater à certains moments, au moins sur Montpellier, que c'était, qu'il y avait une différence de traitement, que c'était plus rapide de faire une main courante. Donc à partir de là, voilà. Quoi.
Et même, alors, je crois,
pour les violences conjugales, comme pour autre chose, hein, enfin, je crois que ça ne concernait pas que les violences conjugales, mais il y avait cette tendance à vouloir faire vite aussi. Alors peut-être qu'ils avaient d'autres motivations, hein, ça va peut-être plus vite ou pas, mais c'est aussi, alors, je sais pas, au niveau des chiffres, peut-être ça ressort différemment, je ne sais pas du tout.
Ouais. Je crois qu'il y avait aussi, ben, en ayant pu en parler justement avec un officier de police, c'était le fait qu'ils avaient l'impression que si la personne allait se rétracter ou s'ils avaient vu déjà une femme qui avait tendance à déposer plainte puis à retirer sa plainte, ils préféraient se dire on va faire une main courante, ça sera beaucoup plus simple. Et ça, c'est une méconnaissance absolue, je crois qu'on va y venir, du mécanisme du cycle de la violence. Peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu, comment ça se répète.
Je voudrais juste répondre sur la main courante. Je crois que c'est un outil quand même qui est très intéressant, la main courante, puisque ça va répondre en termes d'expliquer un petit peu le processus dans lequel se trouvent ces femmes. Ça permet aussi de s'adapter en fonction des étapes dans lesquelles elles sont, hein, dans cette spirale un peu infernale des violences, de pouvoir à un moment donné poser une parole, en sachant que déposer plainte, ça engage des poursuites, donc elles ont peur. Elles ont peur des représailles, elles ont peur elles ont honte déjà, elles ont honte de parler, honte du jugement aussi de la personne en face, elles se sentent coupables. Voilà, responsable de ce qui se passe. Et la main courante permet de passer ce premier pas et de pouvoir au moins déposer une parole à un moment donné.
À condition que la personne puisse différencier la main courante du dépôt de plainte.
C'est
pour ça que c'est dans ces conditions-là où moi je suis assez sceptique des fois.
Voilà, sauf qu'en service de police, par exemple sur l'hôtel de police de Montpellier, c'est un OPJ qui effectue la main courante aussi. Et en tout cas sur Montpellier, alors c'est spécifique, les policiers sont formés à l'écoute et à l'accueil des femmes victimes de violences conjugales. Donc ils sont sur le commissariat central uniquement. Ouais.
Excuse-moi juste Marco. Il y a aussi évidemment les conséquences donc du dépôt de plainte qu'on va aborder aussi. Moi j'aimerais juste avant qu'on continue, parce qu'on est passé un peu vite peut-être là-dessus, c'est faire juste un état des lieux, même si c'est assez rapide, sur le côté juridique, sur la législation et sur l'historique notamment, c'est-à-dire sur de quand datent les premières lois sur ces questions-là et quelles sont les dernières lois récentes, même si on va assez vite, mais au moins qu'on ait un peu ça en tête avant de continuer de revenir sur l'aspect concret de l'intervention.
Donc il faut savoir que les violences conjugales ont commencé ont été l'objet des mobilisations des associations féministes qui ont, à partir simplement des années 70... D'accord. Donc la mobilisation de ces féministes a permis de proposer des lois au gouvernement. Et c'est seulement en 1992 qu'il y a eu une première modification du code pénal où on a introduit la notion de violence. Donc on n'est plus simplement... Donc les violences conjugales avant étaient enregistrées voies de fait, coups et blessures uniquement. En 92, on voit apparaître pour la première fois violence conjugale. Et le code pénal, la réforme du code pénal en 1994, a introduit pour la première fois ces violences conjugales comme des faits constitutifs d'un délit, donc passible du tribunal correctionnel. Voilà, donc c'est seulement en 1994. Auparavant, on était encore sous les anciens codes avec aucune qualification de ces faits. Voilà, donc en 1994, ça a été quand même une grande avancée au niveau de la modification de ce code pénal. Et ensuite, il a fallu attendre 2004, hein, la loi qui a réformé le divorce, pour voir apparaître dans les cas de divorce, pouvoir faire apparaître la possibilité de l'éviction du conjoint violent du domicile. Voilà. Et donc ces lois ont été complétées récemment, donc la dernière loi date du 23 mars 2006, qui renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple. Voilà. Et elle a étendu, cette loi a étendu le délit aux ex-conjoints, ex-concubins. C'est-à-dire que la séparation ne protège plus l'auteur. notamment, et c'est, cette loi a été, cet article a été rajouté du fait des chiffres qu'on avait eus en 2001 et 2002 sur les homicides commis envers les femmes. On s'est aperçu que 30% des homicides avaient lieu après la séparation. Voilà. Donc cette réforme a été très très importante pour pouvoir l'étendre, même en cas de séparation, aux ex-conjoints, ex-concubins, pacsés, etc.
Alors on parlait de la législation, donc on va glisser de sujet, on va vous faire écouter un petit extrait. En fait, c'est un petit montage que Jean-Jacques a fait sur les déclarations qui ont eu lieu, notamment par les principaux candidats aux déclarations, aux élections. Pardon.
Le temps des femmes est venu.
Le premier déplacement de Nicolas Sarkozy a eu lieu dans un foyer de femmes en détresse à Paris ce matin.
Et quand dans un pays comme la France, il y a ce chiffre épouvantable, une femme sur trois aujourd'hui est assassinée sous les coups de son conjoint. Là, dans la France dans laquelle nous vivons,
et que ce chiffre va s'en sortir, que s'il est élu président, il s'engage à les aider à se reconstruire au niveau de la formation, par exemple.
11h23. Donc on est largement en retard, simplement.
Je termine sur quelque chose, parce que je voudrais savoir, vous êtes allé récemment dans un foyer de femmes battues, et vous avez promis à toutes les femmes battues étrangères d'avoir des papiers. Est-ce qu'aujourd'hui ces femmes ont eu ces papiers? Et est-ce que ça vaut pour toutes les femmes battues sans papiers en France?
J'étais dans une association qui est absolument remarquable, qui s'appelle Cœur de Femmes, qui s'occupe de femmes au bout du bout du bout de la détresse. Il y en avait 12 dans la salle. Je connais très bien la dirigeante de cette association avec qui je travaille depuis très longtemps. Je n'en aurais pas parlé si vous ne m'aviez pas interrogé là-dessus. J'ai confiance dans cette femme et je sais que quand elle me soumet des dossiers, c'est des dossiers qui ont été réfléchis et c'est des situations dramatiques. J'assume.
Donc,
et je tiendrai mes promesses.
Très bien. Bon,
mais ça ne veut pas dire parce que c'est Cœur de Femmes, parce que c'est un sujet bien particulier, parce que ce sont des femmes qui sont poursuivies, qui ont été violées, qui ont été battues, et que j'imagine la France que j'imagine, c'est une France généreuse et accueillante.
Très bien. Voilà. Donc toutes les femmes victimes de violences pourront avoir accès à des papiers en
Madame,
France.
En tout cas, vous avez de Cœur de Femmes, oui.
Uniquement de Cœur de Femmes. Donc vous pensez
que
la responsabilité de l'État, c'est comme ça de choisir de façon arbitraire.
Mais comme
il faut
vous l'avez
des
dit
règles.
Vous-même, au cas par cas.
Il faut des règles. Donc au cas par cas.
Alors, Madame Karchen, que vous inspire ces témoignages que vous avez déjà entendus, non?
Oui, oui. Déclarations. Ségolène Royal et M. Sarkozy s'est exprimé sur la régularisation des femmes immigrées ou arrivées en France suite à un mariage, la problématique qui est quand il y a violence conjugale. Ces femmes doivent quitter le domicile, donc quand elles viennent d'obtenir un titre de séjour pour raison familiale, il y avait possibilité jusqu'à maintenant de leur retirer ce titre de séjour et d'avoir une reconduite aux frontières. Donc il y avait possibilité, avec la dernière loi du 23 mars 2006 et la loi sur l'immigration en juillet 2006, de pouvoir permettre à ces femmes de garder leur titre de séjour, malgré le fait qu'elles soient plus en situation familiale. Voilà. Donc oui, ça me fait sourire, Nicolas Sarkozy qui régularise la situation uniquement d'une association. Donc ça représente, je crois, 12 femmes.
C'est 12 femmes, sachant que dans un meeting entre les deux tours, entre sa première intervention et puis le débat de Ségolène Royal, il avait quand même dit en meeting s'il allait régulariser tout le monde, toutes les femmes victimes de violences. Voilà. Et puis en fait, après, il est revenu sur ses propos au cours du débat. Donc on peut dire que c'est pas très très clair.
Non, c'est pas très clair. Et Nicolas Sarkozy, je crois, est le seul à pas s'être prononcé sur le projet de loi cadre qui est porté par les mouvements féministes et par un ensemble de magistrats et de professionnels de santé. Donc ce projet de loi cadre qui est un petit peu à l'image de celle qui a été votée en 2003, je crois, en Espagne, sous le gouvernement Zapatero, qui demande des avancées quand même assez très importantes en matière de traitement des violences, et notamment la création d'un tribunal unique qui gérerait toutes les violences conjugales, qui permettrait de répondre un petit peu aux limites du judiciaire aujourd'hui, qui est que le traitement des violences se fait dans différentes juridictions, que ce soit au pénal ou au civil. au civil tout ce qui va être traitement des séparations, des cas de divorce, où va se gérer aussi la question des enfants et de la résidence des enfants et des visites et droits de visite pour les enfants. Voilà. Donc ce projet de loi CARN, Ségolène Royal s'est prononcé dessus, un certain nombre de candidats aux élections se sont prononcés, Nicolas Sarkozy, non. Donc, et notamment dans ce projet de loi, il y a la régularisation de toutes les femmes immigrées qui ont subi des violences conjugales.
Non, c'est important d'entendre certaines divergences, parce qu'au cours des discours, notamment de la dernière campagne, on avait l'impression qu'il y avait une unanimité pour dire que les violences conjugales, c'est un scandale et qu'il fallait absolument les résorber. Mmh. Voilà, là, on entend quand même qu'il y avait des points de vue sur le concrètement qui sont quand même assez
différents. Dans
assez
ce différent. Débat, oui, c'est apparu. Voilà.
D'accord. Mmh. On pourrait peut-être revenir quand même, parce que je vois que l'heure tourne, sur cette question des mécanismes de la violence, c'est-à-dire pour mieux comprendre pourquoi, justement, on peut avoir cette impression de répétition, pourquoi ça peut être incompris vu de l'extérieur qu'une femme victime de violence reste avec son concubin, son conjoint. Pourquoi c'est difficile cet arrachement? Est-ce qu'on peut mieux expliquer ça peut-être?
Donc en fait, le processus en œuvre dans les couples hein, où s'exerce de la violence conjugale, on parle de cycle de violence où trois temps apparaissent. Succinctement, donc il y a un premier temps où la tension va monter dans le couple, où la femme va sentir commencer à avoir peur de son mari, de son conjoint, où la moindre raison la salière est posée à tel endroit sur la table, les enfants sont pas couchés à l'heure, va être sujet à conflit, à plus qu'à conflit, va être sujet à un déferlement de violence. Donc il y a une montée de tension dans un premier temps où chacun va se positionner et la femme va tout faire pour essayer de faire baisser cette tension et malgré tout cette tension éclate et on arrive au deuxième temps de ce cycle où il y a un passage à l'acte, soit une violence physique dans les pires des cas, soit un déferlement d'humiliation, de hurlement, de destruction de matériel. Et lors de ce passage à l'acte, l'auteur va rendre responsable et culpabiliser la victime, qui va se sentir elle-même responsable. Voilà. Elle le savait bien, qu'il fallait pas poser la salière à cette place. Elle le savait bien, qu'il fallait qu'elle couche les enfants avant qu'il arrive du travail. Il est fatigué. Voilà. Donc elle se sent coupable et responsable de ce qui se passe. Ce qui va permettre à l'auteur de pouvoir continuer aussi à exercer ces violences. Et dans un troisième temps, on va assister à ce qu'on appelle une période de lune de miel, une rémission, un sursis amoureux où l'auteur va s'excuser, va faire des promesses, va permettre à la victime d'espérer de retrouver cet homme qu'elle aime. Cet homme, je crois qu'il ne faut pas oublier que dans toute relation, même où il y a de la violence, il y a une relation amoureuse qui est souvent, bien souvent très forte, voire fusionnelle, et qui justement, cette femme est pleine d'espoir. Et donc cet espoir lui permet de tenir dans un premier temps, et puis finalement de rester enfermée dans ce cycle. Donc c'est bien important de comprendre ces trois cycles-là, puisque en fonction de la période où elle va se trouver dans sa situation de couple, la place des intervenants sociaux et de l'ensemble des intervenants familiaux, citoyens, etc., est déterminant. Voilà, de savoir à quelle phase se trouve la femme pour pouvoir l'aider au mieux dans la prise de conscience des violences qu'elle subit.
Alors, je vous propose qu'on continue à discuter de ce sujet juste après une petite pause musicale qu'on va faire. Alors, une pause musicale si on est vendredi. Si on est lundi, ça sera plus qu'une pause musicale. Ça sera la fin de cette première partie d'émission. Nous vous rappelons que vous pouvez l'écouter en totalité, donc soit le vendredi ou alors sur le site de l'association. On vous remercie quand même si on se retrouve juste après une chanson de Magid Cherfi. Merci à tout le monde et merci aussi à l'association Sans Limites.
Elle dit qu'elle est tombée seule dans l'escalier. Elle dit j'ai glissé et remet son tablier. C'est sans seul habit qu'elle a vite recousu. Elle demandait pas la lune, elle ne l'a pas eue. Elle dit qu'elle s'est cognée la tête contre un placard et qu'elle a glissé dans le couloir. Et puis les hommes à qui elle a rendu visite Et puis les hommes ont dit, mais tu connais la suite. Et du mercurochrome, elle en a des flacons. Elle dit que c'est un pot de fleurs qui est tombé du balcon. Elle s'est mis un foulard, on s'y fait. Un foulard, non, c'est pas le chat qui l'a griffé. Elle est bien chez elle, alors pas de sortie. Pour moins que ça d'autre serait déjà parti. Et puis les états d'âme, ça fait des amis. Mais les amis, c'est bon pour ceux qui ont des amis. Tu connais les hommes, tu connais la suite. Mais tu les connais, ils ont dit classé sans suite. Mini souris, on l'aurait cru si ce n'était qu'elle porte n'importe quoi, des pulls en plein été. Une trace et mini se maquille à l'arrache. C'est pas qu'elle veut pas, mais faut pas que les gens sachent. Ça la rend pas plus jolie, plus heureuse, mais à quoi sert d'être belle quand on sort jamais? Elle a mal et c'est pas pour ça qu'elle fait la malle. Elle a mal et c'est pas ce qui fait le plus mal. Si tu connais les hommes, tu connais la suite. Mais tu les connais, ils ont dit classé sans suite. Ses deux poings serrés entre ses dents. Mais Minnie n'a pas de caries, c'est évident. Et puis quoi, se dit-elle, si on croit que je suis morte? Non, y a personne qui vient frapper à ma porte. Puis elle a la tête enfoncée dans l'oreiller. Le petit, il dort, faut pas le réveiller. Se réveiller pour pas qu'il devienne un salaud. Elle fait un sourire et se remet au boulot. Si tu connais les hommes, tu connais la suite. Mais tu les connais, ils ont dit classé sans suite. Si tu connais les hommes, tu connais la suite. Mais tu les connais, ils ont dit classé sans suite.
Alors, si les auditeurs nous entendent, ça veut dire qu'on est vendredi. Alors Estelle, tu nous parlais juste avant des processus et tu souhaiterais poursuivre, parce qu'effectivement, c'est vrai que pour des questions techniques, ça a été un peu du condensé, mais je pense qu'il y a, une petite chose que tu souhaitais nous dire.
Tu me tutoies maintenant.
Mais non, c'est... on se tutoie.
Ah, d'accord, ah,
ouais, après demi-heure, on se tutoie. C'est pour ça que c'est la première fois que je tutoie quelqu'un, en fait. C'est parce que d'habitude, ça se finit au bout de demi-heure. Et donc,
maintenant. C'est ça l'esprit de Wakadien.
Mais il y a comment qui tutoie, par contre. J'y tiens.
C'est très professionnel.
Nous, on peut se tutoyer, mais par contre, il y a comment qui tutoie l'habitude.
Ouais, donc on avait terminé sur la spirale, le processus en œuvre dans le couple, donc cette spirale un peu infernale où s'enferme et la victime et l'auteur, qui se faisait en trois temps. Et donc on assiste à une répétition de plus en plus rapprochée de ces trois phases. qui va de la montée de la violence au passage à l'acte et puis à la rémission, à la fameuse lune de miel. Et on voit que petit à petit, lors de ces répétitions incessantes, la troisième phase va disparaître. Donc il n'y aura plus de phase de lune de miel et donc un enfermement, un isolement total de la victime que dans de la montée de tension et dans des passages à l'acte. Et donc je crois qu'il est très important pour les professionnels et l'ensemble des gens qui entourent la famille, les voisins qui entourent des victimes de violences conjugales et aussi des auteurs, parce que ce sont aussi des hommes qui sont en grande difficulté, qui ont besoin de soins, de pouvoir parler de la violence conjugale. Je crois qu'il faut qu'on mette le point sur le paradoxe un petit peu qui est en jeu, sur le fait, ce qu'on peut se dire, mais pourquoi elles ne partent pas, pourquoi elles ne parlent pas, pourquoi elles n'arrivent pas à sortir de cette spirale.
Ça revient, je vous coupe, ça revient à ma question. À votre niveau, enfin, en tant qu'assistante sociale, vous rencontrez donc des femmes victimes qui ont commencé une démarche, mais à leur niveau ou avec elles-mêmes. Du coup, c'est une première partie. En deuxième phase, où sont-elles les autres, celles finalement qui n'ont pas fait cet effort-là ou qui n'y arrivent pas?
Il y a beaucoup de... En dehors de l'effort, je sais pas si on peut parler d'effort, mais il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas parler. Maintenant, on assiste quand même à des campagnes de prévention qui sont... de plus en plus importantes, notamment des campagnes publicitaires qu'il n'y avait pas auparavant. Donc ces violences sont montrées, sont définies, tant vis-à-vis des femmes que des enfants, qui sont aussi, je tiens à le rappeler, autant victimes que leur mère ou quand leur père, ça arrive aussi, hein, que des hommes soient victimes de violences conjugales, même si c'est cette fois moins, ça arrive. L'ensemble de ces campagnes publicitaires font qu'on a un autre regard, un regard qui change et qui permet aussi à ces femmes de se dire il y a possibilité, il y a peut-être une sortie de secours. Donc elles osent déposer une parole à un moment donné. Alors en service social, c'est particulier, mais peut-être qu'on reviendra dessus plus particulièrement.
Mais peut-être on peut même y venir maintenant, suite. Savoir un petit peu, finalement, c'est quoi l'intervention possible? Qu'est-ce qu'on fait quand on est assistante sociale dans un conseil général et qu'on s'occupe de ces questions-là? À quoi sert finalement un réseau de coordination? Enfin, est-ce que vous nous parlez un peu de ça?
Alors la place de l'intervenant social, comme la place de la famille ou de n'importe quel citoyen, est très difficile parce que on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi la femme va rester alors qu'elle a déposé plainte, qu'elle est déjà partie. On assiste à de nombreux retours au domicile et on ne comprend pas forcément cela. Et la place de l'intervenant social au sein d'un conseil général, donc qui a des missions de service public et notamment d'accueil, d'écoute des personnes, d'information et d'orientation sur les dispositifs légaux, a une place pour moi centrale, surtout en service social de secteur. On accueille tout public, a une place centrale dans le sens où il faut être à même d'être à l'écoute de la parole d'une femme et aussi être à l'écoute dans quelle étape elle est des violences, dans quelle phase elle est, ces fameuses phases dont je vous parlais tout à l'heure, pour pouvoir l'accompagner dans ces étapes-là. Une femme qui est en période de lune de miel, vous ne vous rencontrerez pas, vous ne serez pas sur le même discours. Voilà, il y aura, elle ne pourra pas entendre ce que vous dites et on ne pourra pas comprendre ou être en mesure de comprendre sa démarche. Je crois que c'est important, c'est de pouvoir dans un premier temps recueillir cette parole avec un grand respect de ce qu'elle vit, avec la possibilité de lui faire comprendre un petit peu où elle en est dans ces violences, quelles sont-elles, de revenir sur une définition des violences, sur une prise de conscience des violences. Souvent, on est face à des personnes qui banalisent et cette banalisation est épuisante pour les intervenants sociaux qui vont, quand elles vont arriver par exemple au service social avec la valise et les enfants, c'est souvent face à la mort qu'elles vont réagir, c'est-à-dire qu'elles se sentent en danger de mort réel, pas simplement symbolique. À ce moment-là, elles vont venir. Et donc, il y aura tout un dispositif d'accueil d'urgence. Il y a tout un dispositif mis en place par la loi sur l'accueil d'urgence. Donc, rechercher des structures d'accueil, de protection pour elles et leurs enfants. Ça demande une mobilisation énorme de la part de professionnels. Et quand ces femmes retournent au domicile, on assiste à un véritable épuisement, découragement, incompréhension des professionnels qui se disent, la prochaine fois, j'irai pas si vite pour lui trouver une place en hôtel ou en hébergement. Et je crois que l'important, c'est de pouvoir parler de prévention. Je voudrais simplement revenir sur... Il y a un plan de lutte globale qui a été mis en place en 2001 ou 2003, je ne sais plus, avec une déclinaison sur 3 ans, donc sur 2005-2007, où le gouvernement demandait à chaque département de mettre en place un protocole qui rassemble tous les partenaires des magistrats, des gendarmes, police, les partenaires sociaux, les médecins, pour mettre en place, coordonner leurs actions sur leurs interventions, tant au niveau de la prévention que de la répression aussi des violences. Donc cette prévention, elle peut s'exercer pour nous dans un département sur la mise en cohérence un petit peu des interventions d'un ensemble de partenaires présents sur un territoire, en sachant qu'on est très limité, ce qu'on disait dans la première partie, sur les possibilités offertes par la loi en termes de sanctions pénales pour les auteurs. Sanctions pénales qui restent pour moi, en tout cas une reconnaissance au niveau d'un procureur, au niveau d'un magistrat ou même au niveau d'un officier de police judiciaire, de reconnaître, de faire reconnaître les faits, tant pour la victime que pour l'auteur, on s'inscrira alors dans une réparation, dans une possibilité de début de réparation.
Alors, on va écouter un petit extrait de spot de prévention, un petit montage aussi que Jean-Jacques a fait aussi en récupérant sur Internet, à gauche, à droite, quelques extraits. Après, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu aussi à la fois du réseau, du coup, on a commencé à l'aborder, et surtout du secret professionnel par rapport notamment au projet de loi Sarkozy, enfin, qui maintenant n'est plus un projet sur la prévention de la délinquance.
C'est du mal, hein.
Savoir si le
processus.
Savoir cette question du secret professionnel, finalement, est-ce que c'est un frein ou pas. Voilà, mais et après, évidemment, on va parler de prévention, on écoute ça.
Quoi ? Je t'ai touché ? Est-ce que je t'ai touché ? Non ? Alors, qu'est-ce que t'as ? T'arrêtes ! Arrête !
On voit cet homme qui fait subir une violence psychologique mais aussi physique à sa compagne, et ça sous l'œil de son enfant. L'enfant se rapproche de sa mère qui est à terre, qui est en train de pleurer, et puis il la regarde. On peut penser que c'est de la compassion, mais pas du tout. Il lui donne un coup de pied dans le ventre pour accéder à son réfrigérateur.
Un homme qui maltraite sa femme apprend la violence à ses enfants.
J'aime bien les blagues de blonde.
Femme au volant, mort au tournant.
C'est normal, elle a couché, l'a mal baisée. Oh, elle est bonne.
Il en a une petite.
Qu'est-ce qu'on mange ce soir, chérie?
Dire ces phrases, ou simplement en sourire, c'est être le premier complice d'une société sexiste.
Le 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Changez votre quotidien, changez pour l'égalité.
On s'est rencontrés au mois de mai. Et on s'est mariés 2 mois après. On riait bien, on s'aimait. Puis petit à petit, il a changé. Il est devenu agressif, jaloux. Un jour, on s'est disputé et il m'a frappé. Après, c'était tous les jours qu'il me frappait. Alors, j'ai fini par le quitter. Par la fenêtre.
Et sachant que sur ce spot-là particulièrement, la fin est particulièrement sordide, puisque ça retombe sur une image de tombe et on comprend qu'elle nous parle d'au-delà de la vie. Donc, ce type
de
campagne...
C'est parfois la seule... leur seule issue de secours.
Alors ça, c'est assez terrible ce qu'on vient d'entendre. Alors en plus, quand on voit les images, c'est peut-être encore plus efficace. Enfin, en tout cas, nous, ça nous touche, bien qu'on se sente pas vraiment concerné parce qu'on n'est pas victime de violence.
Justement, peut-être.
Ni auteur.
Oui.
Non, mais c'est une question importante. Mais la prévention, comme on l'entend là, elle est plutôt peut-être je me trompe, on va en discuter, mais à destination des victimes pour qu'elles puissent réagir. Quel est-il de la prévention autour des auteurs? Je crois que ça a déjà été... Parce qu'on a parlé de l'intervention auprès des victimes, et il est en train de se tramer quelque chose de nouveau et peut-être d'intéressant, en tout cas, sur comment essayer d'aller toucher les auteurs, de montrer combien c'est grave et pour éviter que ça recommence. Alors, est-ce que vous avez déjà, vous, participé avec les réseaux sur les campagnes de prévention, et sur quel public? Femmes, auteurs, victimes, comment... Comment avez-vous pu intervenir ?
Non, moi, je n'ai pas participé à des campagnes de prévention comme celles qu'on vient d'entendre, qui sont des campagnes de prévention nationales, qui sont à destination d'un ensemble de publics, pas seulement les victimes, mais aussi des auteurs. Et parce que le spot publicitaire en question où l'enfant tape sa mère, l'objectif de ce spot, c'est de dire qu'il n'y a pas qu'une seule victime, qu'il y a des victimes, les enfants sont autant victimes que leur mère, c'est-à-dire qu'au niveau des conséquences, tant sur la santé des femmes en matière de dépression, de stress, d'anxiété, etc., les enfants subissent les mêmes conséquences. On assiste à un développement du trouble du comportement, de l'anxiété, de l'hyperactivité. Donc ces spots publicitaires ne sont pas qu'à destination des victimes, mais aussi des auteurs. Parce que cet homme qu'on voit assis dans sa cuisine en train de boire son café, qui commence à s'énerver, ça peut aussi faire réagir certains hommes qui se trouvent dans cette position. Sur le département, les campagnes de prévention se font sont relayées par la préfecture, donc qui relaye les campagnes d'information nationale. Après, en matière de prévention, ce qui est préconisé dans les nouveaux textes de loi, c'est de faire une prévention au niveau des écoles, au niveau des enfants. Donc là, pour jouer plus sur l'aspect culturel, c'est-à-dire la place de la femme dans la société, dans une société très patriarcale, de sensibiliser les enfants sur leur place, sur la place du petit garçon, où on va valoriser un petit peu l'agressivité du petit garçon, et la petite fille, on va lui acheter le fer à repasser, et la table à repasser, l'aspirateur, même si ces jeux de mimétisme sont très... très important dans la vie d'un enfant, n'empêche comment est-ce que la société aujourd'hui, encore aujourd'hui, maintient les enfants dans cette place déjà prédéterminée du masculin et du féminin.
Il y a une association justement qui s'appelle la Babote qui organise la prévention, qui s'appelle Grain de Sable, et qui comme ça intervient dans des collèges, dans les lycées, pour essayer à partir de supports vidéo, de faire naître des débats pour montrer les inégalités aujourd'hui sexistes et les violences possibles. L'arrivée est possible entre les hommes et les femmes.
Ouais. Après, au niveau du territoire, comment s'organise la prévention ? Peut-être vous parler un petit peu de ce qui se fait sur le département de l'Hérault, qui est considéré comme un département pilote, puisqu'il y a eu la création d'un poste, de deux postes d'assistante sociale en service de police. Et surtout, le réseau, c'était coordonner l'action de chaque partenaire, de faire se rencontrer les services de police et de gendarmerie et les travailleurs sociaux. De les médecins, les magistrats, que chacun puisse communiquer entre eux pour améliorer leurs interventions. Donc sur l'agence de Clermont-Lérault est partie d'un postulat de départ qui était un sentiment d'impuissance dans la prise en charge des victimes, où on n'avait aucun lien avec la gendarmerie, aucun lien avec le tribunal, où on se disait, si la loi n'est pas posée, qu'est-ce que nous on peut faire ?
Cette impuissance-là, elle était partagée par les partenaires ? C'est-à-dire que les gendarmes aussi disaient, mais on ne sait pas quoi en faire.
Les gendarmes aussi, alors oui.
Etc., etc. Je crois que les médecins, enfin, je pense.
Chacun se sentait isolé dans sa pratique en se disant, ça ne relève pas de ma compétence. Le gendarme qui dit, mais moi, nous, quand on reçoit une femme et ses enfants en pleine nuit, on joue à l'assistante sociale. L'assistante sociale qui dit, mais moi, je ne vais pas l'interpeller, mettre le type en garde à vue. Et pourquoi il n'est pas en garde à vue alors qu'elle vient de subir des violences graves qui ont remis en cause son intégrité physique. Chacun restait un petit peu sur ce sentiment d'impuissance. Alors pourquoi ? Parce que je crois que la prise en charge des violences conjugales, elle se trouve un petit peu au carrefour des compétences de chacun, que ça soit au niveau médical. Elles ont besoin d'un médecin, elles ont besoin des services de police, elles ont besoin des magistrats, des avocats, et elles ont besoin aussi des services sociaux qui pourront coordonner tout ce qui est réponse en matière d'action sociale, d'hébergement, d'insertion, d'écoute et de prise en charge peut-être psychologique, d'orientation vers des centres d'écoute. Donc nous, on est parti de cet état de fait en se disant que ça concernait, effectivement, c'était au carrefour des compétences de chacun, et donc il fallait qu'on puisse se rencontrer et discuter de ce que chacun peut faire et d'apprendre à se connaître. Donc ce réseau existe sur Clermont-Lérault depuis novembre 2006, où on a sensibilisé une cinquantaine de partenaires qui étaient présents lors de la soirée débat, d'une soirée débat qu'on avait organisée autour d'un film qui s'appelle Te doy mi oros, d'Isier Bolin, un film espagnol que je vous recommande parce qu'il décrit très bien tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant et qui a permis de sensibiliser les partenaires à cette question-là.
Excusez-moi, les partenaires, par exemple, sur cette question-là, c'est qui ?
Alors, les partenaires, il y avait par exemple sur Clermont-Lérault, on avait... alors, je parle de Clermont-Lérault, mais c'est l'agence de Clermont-Lérault qui regroupe les territoires de Gignac, Clermont et Lodève. On avait un médecin urgentiste de la clinique de l'Odève, on avait les services de gendarmerie qui sont organisés de manière spécifique hein, sur la prise en charge des violences intrafamiliales. Il y avait des avocats, il y avait des psychologues, des associations caritatives type Secours Populaire, Secours Catholique. Il y avait des sages-femmes, des professions libérales. Il y avait un certain nombre de personnes qui sont amenées à un moment ou à un autre à intervenir ou en tout cas à pouvoir entendre la parole d'une femme victime ou d'un auteur. Voilà, donc ça.
Moi, si je peux me permettre, c'est vrai que parce qu'à Ouakadi, on prépare vachement bien les émissions. J'étais présent à cette soirée en novembre 2006. Et c'est vrai que si tout le monde saluait ce réseau, cette participation, etc., on a aussi senti qu'il y avait un petit peu de dissension entre les points de vue. On a entendu le sous-préfet, de mon point de vue, c'est un peu raté. Et c'est vrai qu'on sent que le partenariat. Parce que ça n'a pas d'intérêt.
Non, mais qu'est-ce que les dissensions? C'est ce qui m'intéresse toujours un petit peu.
Ces dissensions, c'est juste qu'effectivement, on a senti comment ça pouvait être difficile, à un moment donné, de réunir. Enfin, moi qui suis pas du tout dans ce truc-là, on a senti comment c'était très compliqué. Que les points de vue n'étaient pas unanimes. Voilà. Alors, il y a eu du débat, il y a eu de la discussion, mais on sent bien aussi que construire ce type de partenariat, ça semble vachement compliqué.
Mais j'aimerais bien, j'insiste un peu, mais c'est quoi les points de divergence? Sur quoi on ne peut ne pas être d'accord sur cette question-là?
Je crois que tout à l'heure, Guillaume a posé le truc, c'est-à-dire la première question sur laquelle il a été, moi je pense que c'est aussi par rapport aux invités qu'on a pu recevoir avant, c'est-à-dire le secret professionnel, ce fameux secret, cette fameuse loi Sarkozy, parce que c'est vrai qu'on a vu aussi traîner des communiqués du collectif de Montpellier qui était contre ce projet de loi et qui prenait un exemple, je crois, dans un de leurs exemples, c'était les violences conjugales. Et c'est vrai que ça pose des questions de se dire comment on peut faire, alors s'ils disent la vérité, comment on peut faire une loi contre-productive. Et tout en disant pendant la campagne présidentielle, on fait quelque chose pour les femmes victimes de violence avec cette association en question, dont j'ai déjà oublié le nom. Voilà. Mais c'est vrai que moi, ce que je voulais dire, c'est vrai qu'on a aussi ressenti, c'était pas mal, c'était même une chouette soirée parce qu'il y a vraiment un parterre de partenaires, mais on a aussi ressenti le fait que c'était pas si évident que ça. Que même si tout le monde partageait les mêmes inquiétudes, la même volonté d'avancer, etc., que ces partenariats, apparemment, il était aussi difficile à mener.
Alors oui, c'est très juste. Cette soirée a permis de voir l'isolement de chaque professionnel dans son corps de métier et aussi le fait que quand on se sent isolé, on renvoie la balle sur le partenaire d'à côté. Donc il y a eu plusieurs échanges comme ça, un petit peu, de dire c'est pas ma compétence, c'est la vôtre, et que font les gendarmes, et que font les assistantes sociales, et que font... Voilà. Donc nous, ce qu'on voulait à travers ce réseau, c'était de travailler sur les représentations qu'on a, étant des victimes, des auteurs, mais aussi les représentations qu'on a de nos partenaires, de nos partenaires sociaux, médicaux, etc. On s'est dit qu'à partir du moment où on pourra définir chacun ce qu'on peut faire et que chacun aura cette connaissance de l'autre, on pourra alors partager nos savoir-faire, nos compétences et les mettre en commun. Voilà. Et donc le gros travail qui a été fait depuis novembre 2006, il y a eu à peu près trois réunions où la cinquantaine de partenaires étaient présents à chaque fois, des gens très impliqués. On a pu échanger sur nos compétences communes. Et donc aujourd'hui, c'est important parce que on en voit les résultats déjà au bout de 6 mois. On a un nombre incroyable de liaisons entre les services de gendarmerie sur ce secteur rural, tant avec les avocats qu'on avait pratiquement peu avant, qu'avec les médecins aussi, des médecins urgentistes. Donc on a recréé ce lien.
Ça veut dire quoi quand vous envoyez les résultats? Ça veut dire qu'il y a plus d'efficacité, plus de solutions qui sont trouvées C'est quoi les résultats concrets?
Les résultats, c'est de pouvoir entendre. Pour moi, le premier résultat, c'est de pouvoir entendre une parole. Alors, c'est pas forcément la solution. C'est pas forcément trouver un hébergement ou que la femme quitte son mari. C'est qu'elle puisse à un moment donné savoir où elle peut trouver les recours possibles à sa situation. Parce que la plupart de ces femmes pensent qu'il n'y a aucune issue de secours et ce qui fait qu'elles restent isolées, qu'elles ne parlent jamais. Voilà. Donc, par exemple, là, moi, j'ai reçu encore aujourd'hui une personne qui m'a été envoyée par un service de gendarmerie, ce qui n'arrivait jamais, pratiquement jamais avant. Les gendarmes, maintenant, ne sont plus bloqués dans cette sorte de ce sentiment d'impuissance et de dire, bah, on n'y peut rien, on ne peut rien faire, il n'y a rien à faire. Et ils se disent, maintenant, voilà, ils orientent plus facilement, ils donnent des noms d'intervenants sociaux bien ciblés sur les agences, et ça permet aux personnes de venir et d'être reçues. Et ça, en tout cas, en 6 mois, on a vu cette évolution-là. Alors, certes, on a un nombre croissant de demandes de prise en charge, mais qui sont plus sur de l'écoute. Il y a un gros travail d'écoute et de prise de conscience. Et ensuite, on les oriente sur les dispositifs légaux qui existent en matière d'hébergement, en matière de logement, via le dispositif Fonds de solidarité pour le logement, de les informer sur leurs droits. Elles ont droit à des ressources. La plupart pensent qu'elles seront privées de ressources et donc on les privera également de leurs enfants. C'est donc de travailler avec tout le monde sur toutes ces représentations qui font qu'on fait perdurer un isolement et un enfermement dans ces violences-là.
Et tu vois des obstacles, toi, à ce travail en commun aussi, aujourd'hui ? C'est-à-dire, au niveau où vous avez...
Où on en est aujourd'hui, je crois que c'est...
Aujourd'hui, est-ce que vous rencontrez aussi encore d'autres obstacles liés soit au partenariat, soit aux moyens, soit...
Je crois que ça se pose plus en termes de moyens parce que là, on est sur un début de travail tous ensemble et il y a une dynamique très intéressante et qui va dans... qui est très positive, voilà, très constructive. Voilà, on est dans une construction de quelque chose.
Par rapport à cette construction, tu penses que c'est lié à une construction des personnes, à la volonté des personnes de mettre en place des choses, ou c'est les institutions qui veulent vraiment mettre en place des choses ?
Je pense tu touches là aux limites, c'est-à-dire que c'est la volonté des personnes, la volonté de professionnels sur le terrain qui se sentent démunis. Au niveau institutionnel, je pense qu'on c'est encore très peu relayé. Par exemple, juste donner un exemple, le 39-19 qui a été mis en place, toute la campagne d'information, des affiches, il y a des nouvelles plaquettes. J'en ai pas vu une seule dans le service social. J'en ai pas vu une seule en gendarmerie. Voilà. Je les ai vues à l'hôtel de police.
C'est un truc national, ça ?
C'est national.
Il faut en parler d'ailleurs, c'est la prévention. 39-19, c'est le numéro d'appel national.
C'est le numéro maintenant. D'accord. Il y a un seul numéro national unique qui recense, qui oriente sur chaque département. Par exemple, pour nous, c'est le centre Elisabeth Bouissonnade qui va gérer les appels.
Sur Montpellier.
Sur Montpellier, oui. Voilà.
En termes de moyens, je crois d'ailleurs avoir pu entendre parler avec Bouissonnade qu'ils n'ont pas forcément des moyens supplémentaires pour gérer cette centrale d'écoute.
Voilà. C'est toute la problématique et ce qu'on touchait aux limites tout à l'heure de la justice, mais aussi aux limites de ces lois qui sont mises en place. C'est très bien, il faut aller vers cette évolution législative, mais n'empêche que les moyens ne redescendent pas. Il y a des guides qui ont été des guides à l'usage des professionnels et qui est très bien fait, que je recommanderais à tout le monde, qui ont été édités par le ministère de la Parité et de la Cohésion sociale et dont pratiquement personne ne connaît l'existence, sauf les... Il faut aller chercher l'information.
Par exemple, tu disais, le médecin légiste, eh bien, il est à Montpellier, vous êtes sûr clairement. Est-ce que votre ambition, c'est aussi de demander aux autorités de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un médecin légiste sur Clermont ou sur l'ODEV ou sur...
Alors ça, c'est...
Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que vous donnez des objectifs comme ça, très précis, qui permettent aussi, qui facilitent en fait
Les objectifs qu'on s'est donnés, c'est de se servir des ressources de notre territoire. Le manque de moyens, on le sait tous, il y en a partout, des manques de moyens. Et on est parti du constat de se dire, on a des choses sur notre territoire, il y a des ressources locales intéressantes, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on peut aussi pallier à un moment donné à un manque de moyens.
Voilà, alors Jean-Jacques,
voilà. Un peu d'animation, c'est avec Jean-Jacques qui a des petites coups de fil à passer. Donc on va te laisser téléphoner,
ciel,
Jean-Jacques.
La femme.
On va qu'est-ce que c'est les violences. Si je réponds pas là.
on va surtout continuer un peu à dérouler le fil de cette émission parce qu'on arrive, même si on est vendredi, on arrive quand même bientôt à la fin de cette émission.
Oui, j'aurais souhaité un peu. On a parlé pas mal des femmes victimes, enfin, logiquement. Par contre, tu as fait, moi aussi je la tutoie du coup, Manu, excuse-moi. tu as fait allusion.
Ça fait une heure.
Tu as fait allusion du coup aux auteurs en grande difficulté et peut-être aussi expliquer. Effectivement, voilà, c'est vraiment un problème complexe que les auteurs, c'est des bourreaux, mais ils ont vraiment de vraies difficultés. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu?
Oui, c'est très important de prendre en charge les situations de violence conjugale. Si on prend en charge que les victimes, on considère que 50% du problème. Il y a une volonté, en tout cas institutionnelle, de mettre en place des des soins, des actions vis-à-vis des auteurs. Donc sur le département de l'Hérault, par exemple, il y a l'association Via Voltaire qui coordonne un réseau sur le Montpellier-Rhin qui assure la prise en charge des auteurs de violences conjugales par des suivis individuels et par des suivis de thérapie de groupe. Donc pour les amener à une reconnaissance, à une prise de responsabilité dans la définition de leurs actes. Voilà, de reconnaître à un moment donné qu'effectivement, ils sont responsables de leurs actes et qu'ils sortent un petit peu de cette banalisation des actes pour eux de la vie quotidienne. Donc la prise en charge des auteurs est nécessaire et fait partie aussi des textes de loi. On n'en a pas parlé, c'est vrai qu'on s'est beaucoup centré sur les victimes, mais il y a beaucoup aussi de rapports qui ont été faits sur la prise en charge des auteurs et la nécessité de prendre en charge ces auteurs, tant pour éviter les récidives que pour marquer à un moment donné une sanction qui sera réparatrice aussi pour eux et qui leur permettra aussi de se construire sur un autre mode relationnel dans leur vie de tous les jours.
Sur les auteurs, je crois qu'il y a un débat sur le thème d'une possibilité de réponse par la médiation pénale. Certains pensent que c'est une bonne idée, d'autres disent que c'est une très mauvaise idée. Quel est ton avis ?
Il y a la médiation pénale, il y a tout ce qui est la médiation aussi familiale. Je crois que les gens aussi mélangent un petit peu les deux. La médiation pénale, elle peut se faire qu'à un certain stade, c'est-à-dire à partir du moment où l'auteur va reconnaître les faits, va se reconnaître responsable, ce qui permettra aussi d'avoir un statut de reconnaissance de la personne victime, en tant que victime de faits. Donc elle n'en est pas responsable. Voilà. Et donc la médiation pénale, elle pourra avoir une importance qu'à partir de ce moment-là où l'auteur et la victime seront bien été positionnés à deux places différentes. La médiation familiale est totalement proscrite dans les cas de violence conjugale puisqu'elle part sur du compromis et sur une relation d'égalité. Donc faudrait-il que chaque sujet puisse se reconnaître dans son altérité, ce qui n'est pas le cas dans les violences conjugales. D'accord. La victime n'est pas reconnue en tant que sujet.
Alors malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Alors je vais continuer à vous voyer, mais je vais vous appeler Madame Karchen.
Merci, monsieur.
Donc je vais vous remercier. On va faire comme on a l'habitude de faire à la fin de cette émission, c'est-à-dire qu'on va ouvrir en disant qu'on fera une émission certainement sur le sujet plus global des violences faites aux femmes en général. Donc et on va se quitter en musique, comme on a déjà eu le bonheur de la dernière fois avec les Sans Limites, Jérémy, Sam et Maya qui vont nous accompagner sur cette fin d'émission. On souhaitait rappeler le site de l'émission Wakadi, wakadi.free.fr.
Sans www, hein, il faut pas les mettre parce qu'on se trompe quand on les met les w, mais d'accord.
sur lequel vous pouvez retrouver les émissions en ligne. Le mail c'est wakadi@free.fr. On souhaitait donc à nouveau remercier l'association Sans Limites. On souhaitait
parler du 3919. Ne pas oublier de dire que, évidemment, pour ceux qui écoutent, le 3919 est une solution importante pour trouver un lieu d'écoute et puis souvent aussi des lieux d'écoute, mais aussi d'orientation vers des dispositifs.
Et qu'il y a des possibilités d'aide, voilà. Tant pour les victimes que pour les auteurs.
Donc voilà, merci à tous et on vous rappelle encore une fois que nous on croit à une chose très forte, c'est qu'on commence d'abord à renoncer à l'impossible et ensuite à tout le reste et on le réaffirme. Pour nous, l'impossible est encore en cours. À vous les Sans Limites.
Ce sont en fait les Sans Limites, ils vont vous mettre un peu en contribution, c'est un peu l'esprit de l'association. Donc on va vous demander de rester présent sur le morceau. Les micros sont ouverts. Reste là.
Il s'échappe. là vous ne le voyez pas, mais il y a Marco qui s'échappe.
Ça y est, je reviens.
Thème simple, vous le connaissez, c'est on a quelque chose à dire.
J'ai la trouille.
On a quelque chose à dire.
on a quelque chose à dire. On a quelque chose à dire. On a quelque chose à dire. Alors chez les gars, on a quelque chose à dire. Qu'on entend un peu ailleurs. On a quelque chose à dire. Ne jouons pas avec les peurs. On a quelque chose à dire. Qu'on avait tort, on n'a pas dit. On a quelque chose à dire. Ça s'appelle Wakadi, les gars. On a quelque chose à dire.
On a quelque chose à dire.
On a quelque chose à dire. Bienvenue, avec moi. On a quelque chose à dire. On a quelque chose à dire.
À dire.
On a quelque chose à dire, c'est un pas de côté. On a quelque chose à dire sur les questions de sécurité. On a quelque chose à dire, passe à l'action sociale. On a quelque chose à dire sur les ondes locales. On a quelque chose à dire.
Ouais, on a quelque chose à dire.
On a quelque chose à dire. On a quelque chose à dire, Marco, Marco.
Et Jean-Jacques, t'as rien à dire,
Bah dis-le.
On a quelque chose à dire, c'est Manu et Marco. On a quelque chose à dire, c'est Jean-Jacques et Guillaume.
Sans limite.
Samuel Moyon.
Yeah.
Tu voudrais nous prévenir.
Hey, un peu vous les Wakadi là-dessus.
Merci, merci. On sort des magasins.